9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Serge Tinière.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de documentaires historiques et c'est à vous qu'on doit notamment la série Champ de bataille sur RMC Découverte. Avec vous, Pascal Portier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable des partenariats de Wargaming, un éditeur de jeux vidéo de guerre et de stratégie. Alors j'avoue, c'est la première fois que je reçois un éditeur de jeux vidéo pour parler d'un programme télé, pour dire les choses crûment. Qu'est-ce que vous faites là ?
Alors déjà, merci de votre accueil. On est là pour vous présenter une collaboration qu'on fait avec l'INA et la chaîne Toute l'Histoire autour d'un documentaire qui se nomme Tank, les rois des champs de bataille. Une collaboration un peu inédite et nouvelle pour mettre en avant, pour remettre en avant et présenter des documentaires historiques.
9 épisodes de 45 minutes, vous n'avez pas répondu à ma question. Que vient faire un éditeur de jeux vidéo dans une émission qui parle de médias et d'un programme de télévision ?
Alors, Wargaming, c'est l'éditeur du jeu World of Tanks, qui est un jeu de stratégie en ligne, totalement gratuit. Dans notre jeu, on a plus de 600 chars qui sont fidèles à la réalité historique. C'est pour ça qu'on se considère un peu comme le plus grand musée virtuel des chars au monde. Mmh. Et on a une légitimité historique parce qu'en fait, on a dans notre ADN, on veut faire revivre l'histoire et on veut valoriser l'ingénierie mécanique. Et
on a toujours pas compris ce que vous faites ici. En fait, vous avez travaillé avec un éditeur de jeux vidéo ?
Alors, je vais vous le dire, tout simplement, c'est moi qui ai fait venir Pascal et Wargaming sur cette série. On se connaît depuis longtemps, on a déjà travaillé ensemble. Ouais. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, un réalisateur de documentaire ne doit pas se contenter de raconter des histoires, il doit aussi s'intéresser à son public et il doit intéresser le public aux histoires qu'il raconte.
Donc, dans le doc, on voit aussi des images de synthèse.
Exactement, on voit aussi des images de synthèse. C'était intéressant de s'adresser au public du jeu vidéo, ouais. Et donc de Wargaming, de ce jeu qui est joué par 160 millions de personnes dans le monde, quand même, c'est pas rien, et de pouvoir profiter de leur savoir là-dessus. Et de pouvoir aussi mettre de l'image de synthèse qui corresponde à leur niveau de qualité pour pouvoir attirer un plus jeune public et raconter toujours l'histoire, la grande histoire, grâce aussi à ce code image qu'est le jeu vidéo.
On est sur la chaîne Toute l'Histoire, oui. Il y a quand même les fondamentaux qu'on peut retrouver, les invariants, il y a des historiens qui parlent. Il n'y a pas seulement des images de jeux vidéo.
Oui, il y a des historiens qui parlent, et parce que j'aime casser les codes, justement. On reprend des codes assez classiques du documentaire. On va mélanger de l'image d'archives, parce qu'il y a l'INA, il y a l'institution qui est là aussi derrière nous, à justement du jeu vidéo, a aussi de l'image de synthèse très fidèle historiquement, et c'est une manière de re-raconter la grande histoire différemment en mélangeant un petit peu tous les codes. C'est ça qui m'intéressait le plus.
Avant qu'on parle du fond, puisque vous parlez de l'INA, ici on est une émission média, vous savez que l'argent c'est le nerf de la guerre également dans les médias. Les images de l'INA c'est payant, et c'est bien normal puisqu'ils les stockent. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, les images d'archives de l'INA ou les images de jeux vidéo en 3D ? C'est alors, une coproduction entre vous deux ?
Non.
Ou est-ce que vous lui avez facturé les images que vous lui avez données ?
Non, on n'a pas facturé, c'est un partenariat. En fait, c'est, dans tout partenariat, on fait un échange de connaissances, on fait d'audience. C'est un pur partenariat. De
d'accord.
Notre côté, c'est un pur
partenariat. Les images étaient gratuites.
En l'occurrence, c'est l'INA qui est porteur de ce projet dès le début, qui a rencontré toute l'histoire sur cette volonté, toute l'histoire qui est une chaîne très courageuse, puisqu'on parle médias, dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de chaînes. Ça fait 15 ans qu'on nous dit faites des séries à l'américaine, et puis quand on les amène dans des chaînes plus traditionnelles, y compris du service public, on nous dit bon, c'est peut-être un petit peu trop anglo-saxon, il faut pas trop bousculer notre public. Et en fait, toute l'histoire a décidé, il y a deux, trois diffuseurs comme ça en France qui ont ce courage-là, de s'adapter véritablement au jeune public et de faire des formats qui soient différents.
On en parlait justement tout à l'heure dans le journal de Charles de Caen, Toute l'Histoire, qui est une chaîne du groupe Media One. Alors, vous commencez votre série aux origines des chars dans l'Antiquité, puis vous racontez les évolutions de ces armes au Moyen-Âge, à la Renaissance, et puis un moment important, on est au 15e siècle.
En 1482, un ingénieur adresse un courrier au duc de Milan. Il lui dit « Je fabriquerai des chars couverts et inattaquables, qui entreront dans les lignes ennemies avec leur artillerie et enfonceront toute formation de troupes, si nombreuses soient-elles. L'infanterie pourra suivre, sans perte et sans obstacle. Cet homme, c'est Léonard de Vinci. » Synthétisant ici une réflexion complète autour du char de guerre auquel il attribue une véritable doctrine d'emploi.
On n'a pas l'image ici. À quoi ressemblait le char de Léonard de Vinci, Serge Portier, Pascal Portier?
Oui, c'est pas mal.
Non, Serge Tinière.
Exactement.
Alors, je vais y arriver. J'ai pas mis les flèches avec les noms.
Ça prouve à quel point nous sommes complémentaires. C'est une énorme toupie. Relativement haute, 3 mètres à peu près, sur 4 mètres de diamètre. Et puis, il y a des canons tout autour de la circonférence de cette toupie, qui malheureusement a un gros problème. Elle n'a pas de moteur. Donc, il va falloir attendre que la révolution industrielle passe par là pour pouvoir créer véritablement des chars d'assaut et que les militaires y voient leur intérêt véritablement, parce que le char d'assaut n'est pas juste un engin de guerre, c'est aussi une manière d'aborder l'histoire sociale, culturelle, économique des nations entre le début du XXe siècle et quasiment aujourd'hui. Les chars jalonnent notre histoire.
Ah bon, qu'est-ce que ça a de culturel, un char d'assaut? C'est drôle parce que ça fait le lien avec notre précédent plateau où on parlait de Charles de Gaulle, à la fois artiste de la culture et ancien militaire.
Mais typiquement, Charles de Gaulle est le grand défenseur des chars dans les années 30.
Mais qu'est-ce que ça a de culturel?
Culturel que, justement, il y a un véritable conflit à cette époque-là entre les traditionalistes, les tenants de l'ancienne culture de l'art militaire hérité de Napoléon, et puis quelqu'un comme Charles de Gaulle qui, lui, voit dans le char la modernité, une manière différente de faire la guerre et une sorte de mise en relief et de mise en rapidité de l'engin militaire qui est refusé totalement par ses détracteurs à son époque-là. On le traite du luberlu, de fou, et on refuse absolument de donner un crédit à ces dires.
Charles de Gaulle aurait été content de le savoir. Les Français étaient à la pointe des chars d'assaut. On continue à en parler avec vous, Pascal Portier et Serge Tinière. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Tank, les rois du champ de bataille, c'est une série documentaire de 9 épisodes à partir de ce soir à 20h40, c'est sur la chaîne Toute l'Histoire, chaîne disponible sur toutes les boxes et qu'on peut aussi retrouver sur l'application Molotov. On est avec Pascal Portier, il est responsable des partenariats de Wargaming, éditeur de jeux vidéo de guerre et de stratégie, et Serge Tinière, réalisateur des documentaires historiques. C'est vous qui avez réalisé ce doc, Serge Tinière. Dans la série, on voit notamment les premières images des chenilles, et sans chenilles, pas de char, extrait.
La chenille, qui est l'élément constitutif fondamental d'un char, vient en fait d'un brevet déposé par Clément Ader en 1865 et qui s'appelait le chemin de fer amovible. L'idée de Clément Ader, c'était de dire, plutôt que de poser des rails de manière constante dans la campagne, eh bien, que le train transporte ses rails sur son dos et les dépose au fur et à mesure de son avancée sur le terrain. Cette invention, elle sera reprise après par Benjamin Holt aux États-Unis, qui la baptisera chenille ou caterpillar, pour en faire des engins agricoles.
C'est complètement dingue. On l'avait chez nous, on ne l'a pas fait. On s'est fait doubler par d'autres.
Quand je vous disais que c'était culturel d'une certaine manière, c'est que justement la société française à cette époque-là, au moment de Clément Ader, n'était pas prête à accueillir cette modernité de la chenille. Et ce sont d'autres qui l'ont récupéré, qui l'ont détourné et qui en ont fait d'un côté des engins agricoles et puis plus tard des chars d'assaut.
Clément Ader qui était un des premiers inventeurs de l'aviation.
Exactement, voilà. Tout à fait. À cette époque-là, on avait beaucoup d'inventeurs qui travaillaient un petit peu sur tous les domaines de l'aviation. Également, mais aussi du char, des engins agricoles.
Alors, on n'a pas tout le temps été à l'arrêt ici en France. Parfois, on était à la pointe dans la conception des chars. Un exemple de char français qui a marqué l'histoire, l'un des tout premiers, c'est le Renault FT. On est en 1916-1917.
Le char FT de Renault, c'est le char dit des trois ruptures. La rupture du concept, c'est un char volontairement léger pour être suffisamment rapide. La deuxième rupture, c'est la rupture industrielle. C'est le premier char produit en très grande série. On a fabriqué des chars FT comme on a produit des camions. Et enfin, la troisième rupture, c'est la rupture de l'emploi. C'est le premier char qui sera véritablement utilisé en masse.
Donc avec Renault arrive la production et donc l'utilisation des chars en masse. Qu'est-ce que ça a changé ?
D'abord, on a attendu 1917, nous les Français, pour pouvoir avoir ce char-là, mais il était parfaitement conçu, puisque on peut considérer que c'est le père de tous les chars, puisque c'est le premier char qui a une tourelle, qui va tourner à 360 degrés. Les autres n'en avaient pas jusque-là, c'était plutôt
Attendez,
des sortes de
bunkers.
Attendez,
vous voulez dire qu'il était prêt, que sa conception était prête, mais qu'on continuait à envoyer de la chair à canon dans les tranchées au lieu d'envoyer des chars?
Il y avait eu deux types de chars français qui avaient été mis au point 1915-1916, mais ça avait pris beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, effectivement, la guerre des tranchées s'est poursuivie. On a attendu 1917. 1917 pour que ce char-là fasse sortir les hommes des tranchées et que la guerre de mouvement reprenne. Et c'était un char qui était à la pointe de la modernité.
Alors, on va parler de la forme de votre série documentaire. Ça aussi, c'est très intéressant. L'une de ses qualités, on l'a dit, c'est de s'inspirer des jeux vidéo. Vous proposez de courtes vidéos de présentation des tanks. C'est en 3D, en réalité augmentée. C'est quoi la réalité augmentée? Comment on pourrait définir ça, Pascal Portier?
C'est des images qui permettent de retranscrire les chars de manière virtuelle.
On dirait comme les voitures, comme dans une voiture dans un jeu vidéo, on peut les tourner dans tous les sens. Exemple, un char français des années 30, le D1.
Long de 4,70 m et large de 2,20 m pour un blindage frontal de 40 mm, le D1 pèse 14 tonnes. Propulsé par un moteur Renault 74 chevaux, il atteint la vitesse de 18 km par heure pour une autonomie de 120 km. Équipé d'un canon de 45 mm et de deux mitrailleuses Mach 31, il est manœuvré par trois membres d'équipage possédant à bord un poste de radiotélégraphie. Production 160 unités.
À l'écran, on voit la reconstitution très fidèle d'un char. Il y a une image en 3D qui tourne dans tous les sens pour qu'on puisse voir le tank sous toutes les coutures. Vous les aviez déjà, ces modélisations, pour vos jeux? Où est-ce que vous les avez faites pour ce doc?
Alors, dans le jeu,
un peu des deux.
Pour le coup, on a 600 modélisations de chars dans le jeu qui sont fidèles à la réalité. On a des chars qui ont...
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous les aviez déjà ou est-ce que vous les avez faites pour la série?
On les a déjà.
Vous les aviez déjà. Oui. Et c'est ça qui était très appréciable pour vous, j'imagine, Serge Tinière.
Tout à fait, de pouvoir profiter de ça. Alors moi, j'ai une société aussi de 2D, 3D qui a créé certains chars qui n'existaient pas dans le catalogue, on va dire, de Wargaming. Et c'est ma société qui les a mis comme ça en perspective véritablement. Mais c'était très appréciable de pouvoir aller taper dans le catalogue de Wargaming et de téléphoner à Pascal pour lui dire « Pascal, est-ce que par hasard, tu n'aurais pas un petit B1 bis sous le coude ? Ça va m'aider. »
Pascal Portier, justement, je ne vous demande pas si vous avez un B1 bis. Est-ce que ce genre de collaboration vous permet de recruter d'autres joueurs pour les jeux vidéo ? Alors, je vais vous dire, quand on met des jeux vidéo dans une émission de télé, on dit « on rajeunit l'audience », est-ce que ça vous permet d'avoir des joueurs plus institutionnels, des seniors, des gens...
Alors nous, on a déjà des jeux, le jeu, on peut y jouer à partir de 7 ans jusqu'à 77 ans. Donc ouais. Clairement, on couvre tout un panel d'âge. Mais effectivement, quand on fait une collaboration de ce genre, on cherche à partager des audiences et on acquiert forcément des nouveaux joueurs qui sont fans d'histoire et fans d'engins mécaniques et de chars.
Donc c'est ce que vous essayez d'agrandir votre public?
Forcément un petit peu, oui.
Est-ce que vous allez parler de la série de documentaires sur votre plateforme de jeux vidéo?
Tout à fait. Un article est prévu aujourd'hui pour en parler.
Qui raconte quoi?
Eh ben du coup, on tease, on raconte, on pitch les deux épisodes et on prévoit de publier de petites vidéos courtes qui correspondent aux épisodes qui vont être publiés ce soir sur notre plateforme.
Wargaming édite depuis 2014 un jeu consacré aux tanks, s'appelle World of Tanks, jeu gratuit sur téléphone
depuis
portable.
Depuis
2010, pardon. Vous profitez du confinement?
Oui, forcément un petit peu.
D'accord. Prochaine étape pour vous, ça va être quoi après les chars?
Je pense qu'on peut faire d'autres saisons sur les chars, mais il y a aussi un superbe jeu qui s'appelle World of Warplane, donc pourquoi pas s'intéresser aux avions aussi. Une autre manière de raconter la grande histoire et puis les petites histoires humaines liées aux pilotes célèbres, pourquoi pas.
Et vous savez, ça risque même de commencer avec Léonard de Vinci, l'avion.
Et ça commencera très certainement avec Léonard. Merci du tuyau.
Non, il était facile. Merci beaucoup Serge Tinière, réalisateur de documentaires historiques. Pascal Portier, vous êtes responsable des partenariats de Wargaming, qui est un éditeur de jeux vidéo de guerre et stratégie. Et je le rappelle, Tank, les rois du champ de bataille, c'est une série documentaire de 9 épisodes qui commence ce soir à 20h40 sur la chaîne Toute l'Histoire, chaîne qu'on peut trouver sur toutes les box et sur l'application, j'arrive à le dire, Molotov. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h. On va retrouver ensuite Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chameroy pour son écran de veille et notre invité Gérard Jugnot qui ne vient pas ni pour un livre ni pour un film, mais pour un recueil de contes. Il revisite Perrault ou Grimm de manière encore plus terrible que les originaux. Et puis dans les indispensables, des séries pour mieux connaître les dessous de la politique américaine et un jeu vidéo dans lequel les candidats à la Maison Blanche s'affrontent. C'est le principe du jeu vidéo. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.